Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles?
Claude est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre.
Dans la série que nous continuons, nous abordons aujourd'hui la sixième béatitude que voici. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu.
Merci Hélène. Ce texte trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 8. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité. Claude, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous.
La première fois que nous avons parlé de ce verset, nous avons appris que tous nous avons le cœur impur à cause du péché qui réside en nous. Nous nous sommes alors demandé, est-il possible d'avoir le cœur pur?
J'ai répondu à cette question la dernière fois en expliquant que Jésus seul peut purifier nos cœurs pollués par nos fautes morales et spirituelles. Car Jésus a pris nos péchés en mourant sur la croix. C'est grâce à son sacrifice que nous pouvons avoir le cœur pur et vivre une nouvelle vie avec Dieu.
Merci. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous affirmons que Jésus nous a purifiés et que de ce fait, nous pouvons connaître Dieu. Et pourtant, le chrétien ne devient pas tout de suite parfait, car son cœur est toujours impur. Ses motivations et ses pensées, ses désirs, ses choix et décisions, ses actes et comportements demeurent impurs, orientés vers le mal, enracinés dans le péché. Voici le paradoxe. Jésus nous a purifiés et de ce fait, nous pouvons paraître devant Dieu sans crainte. Cependant, Jésus nous appelle à vivre selon la pureté qu'il nous donne et nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider à changer progressivement dans ce sens.
Nous pouvons nommer ce processus la sanctification.
Eh bien, c'est exact, Yann. Je pense à une des prières du roi David. Elle se trouve dans le psaume 51, au verset 9 à 12. « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc, même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. »
Il s'agit là d'une très belle prière dont nous pouvons tous nous approprier. Mais rappelez-nous les circonstances qui ont poussé David à l'écrire.
Le roi David avait commis une série de fautes très graves. Tout d'abord, il a commis un adultère en ayant des rapports sexuels avec Bathsheba, la femme d'un autre. Ensuite, pour couvrir ses péchés, il a abusé de son pouvoir en demandant à son général de s'assurer que le mari de Bathsheba trouve la mort lors d'une bataille. Il a donc participé à un meurtre. Par la suite, David s'est rendu compte de la gravité de ses crimes et il a profondément regretté sa conduite, ce qui l'a amené à écrire ce psaume. Il s'agit d'un psaume de confession et de repentance. Au verset 9, il demande à Dieu de le purifier des fautes qu'il a commises. Autrement dit, il lui demande le pardon de ses péchés. Puis, au verset 12, David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Autrement dit, David veut dorénavant vivre d'une manière qui reflète la pureté de Dieu. Il reconnaît que ses actes méchants viennent de son cœur impur et il veut changer. Avant de passer à l'adultère, David était envahi par de mauvais désirs et des motivations égoïstes. Il avait alors pris de mauvaises décisions en choisissant de ne pas dompter ses désirs et de ne pas y renoncer. David reconnaît que l'origine du problème réside dans son cœur impur. À travers sa prière, il exprime son désir de changer. Il aspire à une pureté de cœur. Il veut que son cœur soit transformé. Il a soif désormais de pratiquer le bien et de faire les bons choix. Toutes les fois que nous confessons nos péchés à Jésus et que nous lui demandons pardon, nous devons aussi aspirer à cette même transformation de cœur en demandant l'aide du Saint-Esprit.
Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette transformation de cœur ne se passe pas du jour au lendemain.
C'est vrai, il s'agit d'un travail de longue haleine qui durera toute notre vie pour ne s'achever qu'au jour de la résurrection.
Comment alors aller dans ce sens? Comment faire des progrès vers la pureté de cœur?
Rappelons d'abord d'autres béatitudes, notamment celles qui parlent de notre pauvreté spirituelle et de la soif de justice. Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons prier Jésus pour lui exprimer notre besoin de lui. Sans son aide, celle de l'Esprit qu'il envoie, nous ne ferons pas de progrès. Nos prières, lui demandant d'avoir un cœur purifié, sont donc essentielles. Ensuite, comme je l'ai dit, Jésus a envoyé son Esprit. Celui-ci demeure en tout chrétien authentique. L'un de ses rôles est celui qui consiste à nous aider à faire des progrès vers la sainteté et la pureté de cœur. L'Esprit désire nous changer, mais nous devons coopérer avec lui.
Que fait donc l'Esprit pour nous aider et comment devons-nous coopérer avec lui?
Dans sa lettre aux églises de Galates, au chapitre 5 et au verset 16, l'apôtre Paul écrit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. »
Comment laisser le Saint-Esprit diriger nos vies? Pourriez-vous expliquer cela, s'il vous plaît?
Pour nous aider à mieux comprendre la place de l'Esprit dans nos vies, je voudrais m'appuyer sur deux illustrations. D'abord, imaginez que vous conduisez une voiture et que le Saint-Esprit est un passager important. En principe, vous pouvez aller là où vous voulez, car c'est vous qui tenez le volant. Cependant, le Saint-Esprit a décidé de votre destination. Il a décidé de vous diriger vers la pureté de cœur. Autrement dit, il désire que vous ressembliez à Jésus-Christ. En tant que passager, l'Esprit vous dit par où il vaut mieux passer pour atteindre votre destination. Il connaît les meilleures routes. Ses instructions sont fiables. L'Esprit est donc avec nous et il peut nous diriger vers la pureté de cœur de diverses manières. Il nous aide à comprendre la Bible et à voir sa pertinence dans notre vie. Il nous instruit par les messages ou les études que nous écoutons à l'église ou à la radio. Il nous donne des conseils par l'intermédiaire de chrétiens sages. Il parle à notre conscience et peut nous aider à nous souvenir de versets bibliques pertinents. En tout cela, il nous donne les bonnes directions qui nous conduiront vers la pureté de cœur. Cependant, nous tenons toujours le volant et nous avons le choix soit de suivre ses conseils, soit de poursuivre notre propre chemin. Coopérer avec l'Esprit de Dieu, c'est suivre ses conseils, c'est lui obéir. Si nous persistons à faire ce que bon nous semble, nous allons nous égarer et nous ne ferons pas de progrès vers la pureté de cœur. L'Esprit veut aller vers la sainteté et nous devons l'écouter.
Merci pour cette illustration, mais quelle est la deuxième?
L'Esprit n'est pas seulement comme un passager à côté de nous, mais il est aussi comme un arbre qui a été planté dans notre cœur, destiné à produire en son temps un fruit qui plaît à Dieu. Nous savons qu'il faut du temps pour qu'un arbre pousse, et au début, il produit peu de fruits. Mais au fil des années, si l'arbre reste en bonne santé et reçoit suffisamment d'eau, il portera de plus en plus de fruits. C'est un rappel que l'Esprit vit en nous et que progressivement, il transforme nos cœurs. En principe, alors que les années passent, ces bons fruits devraient se voir de plus en plus dans nos vies.
Mais en quoi consiste ce bon fruit?
C'est la pureté de cœur ou la sainteté.
Mais à quoi cette pureté de cœur ressemble-t-elle?
L'apôtre Paul nous en donne une description qui se trouve aussi dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Merci de nous rappeler ce verset important. Mais Claude, parfois nous pouvons nous lamenter en constatant un manque de fruits, soit chez les autres, soit dans notre propre cœur. Pourquoi est-ce le cas?
D'abord, comme je l'ai dit, l'œuvre de l'esprit est progressive et cela peut prendre du temps. Cependant, il est également possible de ralentir ou de gâcher l'œuvre de l'esprit en adoptant une mauvaise attitude ou en poursuivant un péché. En effet, un arbre peut produire moins de fruits s'il est infecté par une maladie ou attaqué par des parasites qui abîment ses fruits. De la même manière, si nous ne nous laissons pas diriger par l'esprit et si nous ne favorisons pas l'œuvre de Dieu, alors nous porterons moins de fruits. Si nos mauvais désirs prennent le dessus dans nos cœurs, si nous cédons aux tentations et commettons des péchés, alors les bons fruits vont se gâter et toute croissance spirituelle sera gênée.
Merci une fois de plus pour cette illustration parlante. Comment donc favoriser la croissance des fruits de l'esprit?
Nous favorisons l'œuvre de l'esprit en nous lorsque nous reconnaissons notre propre faiblesse et que nous exprimons à Dieu par la prière notre besoin que l'esprit nous aide. Nous favorisons l'œuvre de l'esprit lorsque nous vivions l'humilité, lorsque nous confessons nos péchés et que nous aspirons à la repentance et ceci au quotidien. Nous favorisons l'œuvre de l'esprit quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lui faisons confiance, lui obéissant et mettons en pratique ses commandements.
Merci Claude. Nous comprenons qu'il faut marcher main dans la main avec l'esprit de Dieu et que c'est ainsi que nous ferons des progrès vers la pureté de cœur. Claude, vous serez de retour la prochaine fois pour nous parler de la promesse qui s'attache à cette béatitude que nous étudions. Autrement dit, nous parlerons de ce que cela signifie voir Dieu.
C'est exact, Yann. En attendant de vous retrouver, je dis au revoir à tous.
Merci, Claude. Notre discussion a été plus longue que d'habitude et de ce fait, nous n'avons pas eu le temps de faire notre courte méditation sur le livre d'Ésaïe. Mais nous la ferons la prochaine fois. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.